tassant leurs jupes, leurs manches et leurs écharpes, s'assirent les unes près des autres. Les hommes, debout, s'établirent dans les angles. Pellerin et M. Oudry furent placés près de Rosanette. Arnoux était en face. Palazzo et son ami venaient de partir.
« Bon voyage !» dit-elle. « Attaquons !»
Et l'enfant de cœur, homme facétieux, en faisant un grand signe de croix, commença le bénédiciter. Les dames furent scandalisées, et principalement la Poissarde, mère d'une fille dont elle voulait faire une femme honnête. Arnoux non plus n'aimait pas ça, trouvant qu'on devait respecter la religion. Une horloge allemande, munie d'un coq, carillonnant 2 heures, provoqua sur le coucou force plaisanterie. Toutes sortes de propos s'ensuivirent. Calembours, anecdotes, vantardises, gageurs, mensonges tenus pour vrais, assertions improbables. Un tumulte de paroles qui bientôt s'éparpilla en conversations particulières. Les vins circulaient, les places succédaient, le docteur découpait. On se lançait de loin une orange, un bouchon. On quittait sa place pour causer avec quelqu'un. Souvent, Rosanette se tournait vers Delmar, immobile derrière elle. Pellerin bavardait. M. Oudry souriait. Mademoiselle Vatnaz mangea presque à elle seule le buisson d'écrevisses, et les carapaces sonnaient sous ses longues dents. L'ange, posé sur le tabouret du piano, seul endroit où ses ailes lui permissent de s'asseoir, mastiquait placidement sans discontinuer.
« Quelle fourchette !»
répétait l'enfant de cœur ébahi.
« Quelle fourchette !»
Et la sphinx buvait de l'eau-de-vie, criait à plein gosier, se démenait comme un démon. Tout à coup, ses joues s'enflèrent, et ne résistant plus au sang qui l'étouffait, elle porta sa serviette contre ses lèvres, puis la jeta sous la table. Frédéric l'avait vue.
« Ce n'est rien. »
Et à ses instances pour partir et se soigner, elle répondit lentement.
« Bah, à quoi bon? Autant ça qu'autre chose. La vie n'est pas si drôle. »
Alors il frissonna, pris d'une tristesse glaciale, comme s'il avait aperçu des mondes entiers de misère et de désespoir, un réchaud de charbon près d'un lit de sangle, et les cadavres de la morgue en tablier de cuir avec le robinet d'eau froide qui coule sur leurs cheveux. Cependant, Hussonnet, accroupi au pied de la femme sauvage, braillait d'une voix enrouée pour imiter l'acteur Grasso.
« Ne sois pas cruel, ô Tchelouta. Cette petite fête de famille est charmante. Enivrez-moi de volupté, mes amours. Folichonnon, folichonnon !»
Et il se mit à baiser les femmes sur l'épaule. Elles tressaillaient, piquées par ses moustaches. Puis, il imagina de casser contre sa tête une assiette en la heurtant d'un petit coup. D'autres l'imitèrent. Les morceaux de faïence volaient comme des ardoises par un grand vent, et la débardeuse s'écria
« Ne vous gênez pas, ça ne coûte rien, le bourgeois qui en fabrique nous en cadote. »
Tous les yeux se portèrent sur Arnoux. Il répliqua
« Ah, sur facture, permettez !»
tenant sans doute à passer pour n'être pas ou n'être plus l'amant de Rosanette.
Mais deux voix furieuses s'élevèrent « Imbécile ! Polisson ! À vos ordres ! Au vôtre !»
C'était le chevalier Moyen-Âge et le postillon russe qui se disputaient. Celui-ci ayant soutenu que des armures dispensaient d'être braves, l'autre avait pris cela pour une injure. Et ils voulaient se battre, tous s'interposaient, et le capitaine, au milieu du tumulte, tâchait de se faire entendre.
« Messieurs, écoutez-moi, un mot. J'ai de l'expérience, messieurs. »
Rosanette, ayant frappé avec son couteau sur un verre, finit par obtenir du silence. Et s'adressant au chevalier qui gardait son casque, puis au postillon coiffé d'un bonnet à longs poils.
« Retirez d'abord votre casserole. Ça m'échauffe. Et vous, là-bas, votre tête de loup, voulez-vous bien m'obéir, saprelotte? Regardez donc mes épaulettes. Je suis votre maréchal. »
Ils s'exécutèrent, et tous applaudirent en criant
« Vive la maréchale! Vive la maréchale !»
Alors, elle prit sur le poil une bouteille de vin de champagne, et elle le versa de haut, dans les coupes qu'on lui tendait. Comme la table était trop large, les convives, les femmes surtout, se portèrent de son côté en se dressant sur la pointe des pieds, sur les barreaux des chaises, ce qui forma pendant une minute un groupe pyramidal de coiffures, d'épaules nues, de bras tendus, de corps penchés. Et de longs jets de vin rayonnaient dans tout cela, car le Pierrot et Arnoux, aux deux angles de la salle, lâchant chacun une bouteille, éclaboussaient les visages. les petits oiseaux de la volière dont on avait laissé la porte ouverte envahirent la salle, tout effarouchés, voletant autour du lustre, se cognant contre les carreaux, contre les meubles, et quelques-uns, posés sur les têtes, faisaient au milieu des chevelures comme de larges fleurs. Les musiciens étaient partis. On tira le piano de l'antichambre dans le salon. La Vatnaz s'y mit, et accompagnée de l'enfant de chœur qui battait du tambour de basque, elle entama une contredanse avec furie, tapant les touches comme un cheval qui piaffe et se dandinant de la taille pour mieux marquer la mesure. La maréchale entraîna Frédéric, Hussonnet faisait la roue, la débardeuse se disloquait comme un clown, le Pierrot avait des façons d'orang-outan, la sauvagesse, les bras écartés, imitait l'oscillation d'une chaloupe. Enfin tous, n'en pouvant plus, s'arrêtèrent, et on ouvrit une fenêtre. Le grand jour entra, avec la fraîcheur du matin. Il y eut une exclamation d'étonnement, puis un silence. Les flammes jaunes vacillaient, en faisant de temps à autre éclater leurs bobèches. Des rubans, des fleurs et des perles jonchaient le parquet. Des taches de ponche et de sirop poissaient les consoles. Les tentures étaient salies, les costumes fripés, poudreux. Les nattes pendaient sur les épaules, et le maquillage, coulant avec la sueur, découvrait des faces blêmes dont les paupières rouges clignotaient. La maréchale, fraîche comme au sortir d'un bain, avait les joues roses, les yeux brillants. Elle jeta au loin sa perruque, et ses cheveux tombèrent autour d'elle comme une toison, ne laissant voir de tout son vêtement que sa culotte, ce qui produisit un effet à la fois comique et gentil. La sphinx, dont les dents claquaient de fièvre, eut besoin d'un châle. Rosanette courut dans sa chambre pour le chercher, et comme l'autre la suivait, elle lui ferma la porte au nez vivement. Le Turc observa tout haut qu'on n'avait pas vu sortir M. Oudry. Aucun ne releva cette malice tant on était fatigué. Puis, en attendant les voitures, on s'embobina dans les capelines et les manteaux. 7 heures sonnèrent. L'ange était toujours dans la salle, attablé devant une compote de beurre et de sardines, et la poissarde, près d'elle, fumait des cigarettes, tout en lui donnant des conseils sur l'existence. Enfin, les fiacres étant survenus, les invités s'en allèrent. Hussonnet, employé dans une correspondance pour la province, devait lire avant son déjeuner 53 journaux. La sauvagesse avait une répétition à son théâtre, Pèlerin un modèle, l'enfant de cœur 3 rendez-vous. Mais l'ange, envahi par les premiers symptômes d'une indigestion, ne put se lever. Le baron Moyen-Âge la porta jusqu'au fiacre. « Prends garde à ses ailes !» cria par la fenêtre la débardeuse. On était sur le palier quand Mademoiselle Vatnaz dit à Rosanette « Adieu, chère, c'était très bien ta soirée. » Puis, se penchant à son oreille, « Garde-le !»